DJ Pupa Jam is for the firehouse man. With DJ Jack Ruby, say innocent tongues. DJ Pupa Taros over Portland. DJ Stereo Mar for the one skeng man. With DJ Pupa Cox, say upper London. And me and Super Cat, they are walking the yard. Ronkin Cheva, him a old veteran man. Ronkin Chua, him a old veteran man. You Broad, him a old veteran man. Say you Roy, a old veteran man. Dillinger, old veteran man. Big Youth, him a old veteran man. Jamaica, ya old veteran. Cause boy, ya yeah, boy, big man man. Gala, gala, na, woman, na, woman.
Radio Canu, la plus early dancehall des radios. Juste à l'instant, c'était Nicodemus avec le morceau Old Veteran. Juste avant, c'était Tipa Irie avec le morceau Complain Neighbor, le voisin qui arrête pas de se plaindre parce qu'il y a du bruit. Et encore avant, c'était Universal 2 avec le morceau Dancing Heart 102.2.
L'homme à tête de chou, bien sûr, Serge Gainsbourg. Mais pourquoi cette chanson pour inaugurer notre 270e édition des Petits Tas dans le Mou sur Radio Canu, la plus et belle des radios. Parce que aujourd'hui, selon le calendrier du Père Ubu concocté par Alfred Jarry, nous sommes la Sainte Oneille. J'ai bien dit Oneille. La patronne des bons entendeurs. Vous savez que le Père Ubu aime bien tirer les oneilles, et puis avec son petit croc à finance, chatouiller un petit peu les conduits. Et voilà pourquoi. Mais pourquoi la Sainte Oneille aujourd'hui? Parce que, eh bien, on va commencer par le commencement. Suivez bien mon discours. Aliotis, en grec, veut dire oreille. Bon. Mais la liotis, c'est aussi une espèce de mollusque gastéropode qu'on appelle, parmi lesquels on peut trouver les ormeaux. On en trouvait, car ils sont en voie de disparition, beaucoup autour du Mont Saint-Michel. Attention Saint-Michel, mais pourquoi Saint-Michel? Parce qu'aujourd'hui, selon le calendrier catholique et romain, nous sommes la Saint-Michel. Et Aliotis, oreille, voilà, du nom de ce mollusque, se trouvait à profusion sur et autour du Mont Saint-Michel. D'ailleurs, là-bas, on les appelle les gouffiques. Ces Aliotis, peut-être, si vous êtes de la Manche, avez-vous entendu parler des gouffiques qu'on trouve maintenant? Il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour les trouver. Mais à l'époque d'Alfred Jarry, il y en avait encore beaucoup autour du Mont Saint-Michel. Et voici pourquoi. C'est la Saint-Oneille. Eh oui. Et donc, pendant une heure, on va essayer de discuter avec vous à ce qu'on entend sous les mots, sous les appellations, parce qu'une appellation, c'est bien joli, mais le sens peut être différent suivant l'oneille qui le perçoit. Et donc, c'est parti pour une heure, les petits tas dans le mou. Rubrique Alpha. L'anarchie sous la plante du pied. Il faudrait que je précise le rapport que Mario entretient avec les femmes. Que lui procure cette odeur de renfermé sur les fausses soieries, ses résilles au goût de réglisse, les petits poils sous ses peaux si souvent nus, qui brillent comme des couteaux minuscules, collant aux lèvres et énervant la langue quand elle s'aventure le long des vertèbres. Et aussi ce parfum lourd et camphré de sueur, ces parfums à bas prix qui ne rachètent pas les odeurs de luxure rançonnée. Joséphine ! Oh ! Va par ici, Joséphine ! Et Carlotta, que pense-t-elle des hommes ? Joséphine ! Tu m'entends ? « Oh, mais mettons l'orgnon, la mère. Celui qui salue, Tvé, avait la barbe taillée comme le sapin carré de chez les Boutrelles. » Je me demande ce que Carlotta pense des hommes. « Bah, tu vises ou quoi? C'est Monsieur Carnot, pour ceux, c'est lui donc. Celui-ci, là? Oui, nom de nom, Tvé. Celui-ci, casteur une grosse fleur rouge en plein dans l'embunie. Bon, arrête. Je voulais savoir ce rapport que vous avez avec la queue, vous, certains mecs. Vous m'évoquez les talons de mon enfance devant la porte de la grange. Les bêtes n'ont pas de plaisir à attendre. Sans scrupule, la course au jouir. Les éraflures sur la porte de la grange, je m'en souviens. Ça se rabote, ça se repeint. Eh ben avec d'autres, c'est pire. Ils font ça sans regarder. Et pendant que ça grogne et souffle, ils trouvent à placer sur un ton de père de famille. Ça doit être surtout les pères de famille, les connaisseux qui crachent ça. Tu pleures un bon coup et puis... C'est à cette loi qu'ils soumettent leur machin. Hop. Et puis lui, évidemment, il chiale aussitôt un bon coup. Pas deux, c'est plus cher. Alors le machin, il part en 200 ou 300 sanglots virils, le type geignant par-dessus le marché pour s'accorder au ton. On se soutient, nous, femmes, en comparant l'érection et la détumescence de votre bâton de maréchal aux génuflexions d'un cabotin devant son dieu machinal. L'eau bénite a quelque chose de visqueux. Bon. Mais le fait est que je ne suis pas doué pour les oraisons funèbres. Enfin, il faut bien dire quelque chose. Donc, je vais dire ceci en guise, disons, d'extrême onction, car on n'en a pas fini. Le président agonise encore à la préfecture. Trop de respect il eut pour la horde des sans-dieux. En 7 années de présidence, il n'a jamais osé se présenter au seuil d'une église. Et il meurt. C'est cette année s'achève par la main d'un ennemi de Dieu sur le seuil d'un théâtre, rue, tenez-vous bien, de la République. Il aurait mieux valu, comme Garcia Moreno, l'autre président de la République assassiné, être frappé en entrant à l'église. Néanmoins, la miséricorde divine lui a ménagé le pardon et les sacrements par l'entremise de notre pieux archevêque de Lyon. Dans le couloir étroit, ta sève monte-t-elle comme des larmes ? Par l'effet du sel, le sang caillé redevient liquide. Je conçois Carlotta comme une maîtresse de cérémonie dans sa soutane d'ondulation ouverte au baiser du martyr. Je veux qu'elle apprivoise cette jouissance nouvelle, les caprices de ce chat qui l'a fait rouler au pied des idoles mortes. Es-tu lecteur du père Pénard ? Je ne parle pas du vieux pote Chotard, qu'on appelle aussi ainsi, pauvre vieux. Je parle du canard, le père Pénard. Est-ce qu'un journal aime son lecteur ? Est-ce que le lecteur remue dans les pages qu'il effeuille comme dans une femme en bout de course ? J'ai des problèmes avec l'extase. C'est à cause de ta méfiance. Tu songes aux conquêtes. Aussi, tu as du mal avec l'instant. Tu ne profites pas des vagues du dedans, crispées sur la planche d'un dos. L'anarchie se glisse difficilement sous les algues érotiques. Alors, je te dis que le renversement des valeurs ne signifie rien. L'anarchie, dans ces conditions, est vide de sens.
C'est tout de même une quête, Mario.
Mario. Bon, changeons de sujet.
Hop, oh, pour sûr que c'est moi l'agent qui a pinché l'Italien. Pensez, il criait à la foule qui avait encore rien capté. Vive l'anarchie, vive l'anarchie. Chaque jour, je la remets, celle-là, parce que ce type-là, ce Caserio, était-y pas cinglé.
Pauvre flic. Voilà la lettre qui est arrivée chez toi le lendemain.
Lorsqu'un imbécile de votre calibre se vante d'avoir été le premier à avoir contribué à l'arrestation d'un martyr de l'idée anarchique, il n'a plus qu'à veiller sur sa peau. Gare à la bombe.
Et c'était signé La Mèche. Il y avait sur l'enveloppe un petit dessin représentant une bombe explosible et puis une effigie où Caserio apparaissait auréolé, marchant vers la guillotine. « Est-ce que tu en as mené large, mon flic ?»«
Non, depuis, j'ai fermé les volets et j'ai arrêté de frimer. Faut voir que ça ne manque pas par le temps qui court, les explosions. C'est la saison, comme qui dirait. »« Oh, il ne fait pas bon traîner le soir à Lyon. On trouve même des engins chargés au plâtre. » Les fumistes sont les alliés des anarchistes, moi je dis.
Les anarchistes font la promotion de l'action individuelle.
Bah oui, bah c'est très embarrassant pour la répression. On est obligé de faire des perquisitions en ratissant large.
Parle-moi encore de Carlotta, ça me rassure.
Carlotta ?
Elle amorce, simplement. Mario marche sur des pierres coupantes. Il a la plante des pieds sensibles.
Mais c'est idiot ce que tu dis là.
Non, non, c'est vrai. S'il se blesse à la plante du pied, le sang ne s'arrête plus. Il fuit.
Oh, alors Mario aussi pense à la fuite.
Je ne suis pas autorisé à t'en dire plus.
Que je suis paresseux, que je ne fais que ce que je veux, c'est-à-dire pas grand-chose. On dit que je me repose, je suis déjà. panier. J'ai les cheveux sales, je suis barbu, mais je m'en vais, mon café bu. Je suis désolé, je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds, franchement désolé.
Thomas Fersen, deux pieds. Ceci pour nous amener à la rubrique Bêta. Comme chaque semaine hebdomadaire, chers auditeurs et chères auditrices, vous pouvez dès à présent décoller votre pavillon auditif et vous approcher, si vous en avez une, vers la fenêtre de chez vous, donnant sur ce ciel absolument miraculeusement estival aujourd'hui de Lyon. Et il y a de fortes chances de voir apparaître la navette spéciale de Miss Cosmos. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Canette. Alors, c'était vraiment facile aujourd'hui d'améthéoriter sur votre météorite. Hein, voilà. Et dans les studios de Radio Canette, où il y a force travaux. Hein, dites donc, hein, qu'est-ce que ça travaille? Et justement, ça tombe bien parce que je suis venu vous parler de l'avenir industriel du fragment français. Oui, si. À l'heure où votre fragment arrête ses usines de production arriérées, il est de notre devoir de vous informer de l'avenir de l'industrie par chez vous. Ah, ce qu'on a constaté de notre constellation des pénates depuis la dernière semaine hebdomadaire au moyen de notre télescope. Alors, à l'entrée, il y aura un empilement de pièces détachées. Bon, le long de la ligne de production, tout le monde sera en blouse grise ou noire. Les transports de matériaux se feront sur deux roues. Hein? Bon, alors bon, jusque-là, vous n'êtes pas dépaysés, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. C'est que je n'ai pas encore parlé des robots, ni des équipements numériques. On monte, on démonte, en une boucle infinie. Pour le moment, on teste, hein, par chez vous, la dématérialisation de la matière. C'est singulier. C'est l'industrie 4.0, que le fragment de ton connaît déjà bien. Le maître mot est la compétitivité.
Ça s'appelle, pour le grand public que vous êtes, rentabilisation du tissu industriel affaibli par des années de sous-investissement. On va donc augmenter la réalité au moyen de Big Brother... de Big Data. J'ai fourché. Pour le moment, vous avez les Factory Labs. On y chiffre les résultats en expérimentant les choses en petit. On pourra augmenter les cadences 2 fois plus vite. Oh, augmenter les cadences en même temps que la réalité. Car il faut battre de vitesse les fragments roumains et chinois. On pourra apporter des nuances aux produits, s'adapter à la demande en temps réel augmenté. Micro-caméra, projecteur, et les pièces s'assemblent toutes seules sur écran tactile. Les gestes n'ont qu'à se conformer aux directives indiquées par les flèches sur l'écran. L'ouvrier qui se trompe sera immédiatement sanctionné. C'est parfait pour les débutants sous-payés, ça, n'est-ce pas, moi? Ah bah oui, c'est plus que parfait. Zéro défaut, quoi. Zéro défaut. On élimine les risques d'erreur. Et surtout, on multiplie la cadence. Multiplier la cadence. Chariots autoguidés qui vont tout seuls au point suivant de la chaîne. Là, un robot de fabrication nippone hausse le produit semi-fini sur le châssis. Ça, c'est bon pour le dos, chères auditrices et ouvrières et ouvriers de Radio Canette. Et de nouveau, on obéit à l'écran. Le client commande ses options en direct. Ce type de chaîne s'adapte à tous les produits. Un point pour la diversification, la concentration horizontale, comme vous dites par chez vous. L'imprimante 3D est polyvalente. Elle sait fabriquer tous les moules. Hein, on peut faire des bonbons aussi bien que des scooters. Vous la vouliez, la nouvelle révolution industrielle ? Fini l'usine classique. On ne veut plus de produits standards sur le météorite. Adieu, Mr. Ford. C'est pratique, votre Internet. C'est génial, l'impression 3D. Elle ne connaît plus de limites de format. Tout est sur mesure. Sans augmentation des coûts. L'usine peut diminuer de taille, l'usine peut prendre en compte l'écologie, l'usine peut parler en tête-à-tête avec le consommateur multiculturel. L'industrie restera-t-elle sur le fragment gaulois? Coupera-t-elle la chic au fragment chinois? Alors, acceptez la déqualification, chers travailleurs. La qualification, ce n'est pas pour chez vous. Ah, ce qu'on a vu de notre constellation des pénates au moyen de notre télescope depuis la dernière semaine hebdomadaire. 4 à 0. Ben, ça vous donnera un bon coup de bambou. Mais si vous licenciez votre entraîneur, ça se fait, hein, à ce qu'on a vu. Hein. Bon, enfin, nous, ce qu'on en dit... La concurrence, ça vous amuse, mais dans notre constellation des pénates, ça n'existe pas. Alors, au fait, et ma navette spéciale, est-ce qu'elle est autoguidée? Ce serait bien, parce que là, surtout quand on est toute seule, venir de notre constellation des pénates jusqu'aux météorites, c'est pas si évident. Je vais essayer activer la fonction autoguidée. Mais nous, on ne connaît pas le GPS. Bon, à la prochaine semaine hebdomadaire, si tout se passe bien.
anos dei um casamento,
Rosina,
com a nega de um bordel,
Rosina,
pensando que era uma moça,
Rosina,
e era o diabo de uma véia,
Rosina, tomo do martelo tomador,
Rosina,
tomo do martelo militar,
ô, Rosina,
tomo do martelo tomador,
Rosina,
tomo do martelo militar,
ô, Rosina, me caso contigo, véia,
Rosina,
é de ser em condição,
Rosina,
eu dormi na minha rede,
Rosina,
e tu, véia, no fogão,
Rosina, tomo do martelo tomador,
Rosina, me casei com esta véia,
Rosina,
pra livrar da fiarada,
Rosina,
a danada dessa véia,
Rosina,
teve ideia numa ninhada,
Rosina, tomo do martelo tomador,
Rosina,
tomo do martelo militar,
Rosina,
tomo do martelo tomador,
Rosina,
tomo do martelo militar,
Rosina, desses 10 que nasceram,
Rosina,
um deu pra ladrão de bode, no tango e deu no mango,
Rosina,
dos 10 só ficaram 9,
Rosina, tomo do martelo tomador,
Rosina,
tomo do martelo militar,
Rosina,
tomo do martelo tomador,
Rosina,
tomo do martelo militar,
Rosina, dos 9 que ficaram,
Rosina,
um deu pra ladrão de boi,
Rosina,
deu no tango e deu no mango,
Rosina,
dos 9 ficaram 8,
Rosina,
que ficaram,
Rosina,
um deu pra ladrão de jegue,
Rosina,
deu no tango e deu no mango,
Rosina,
dos 8 ficaram 7,
Rosina, tomo do martelo tomador,
Rosina,
tomo do martelo militar,
Rosina,
tomo do martelo tomador,
Rosina,
tomo do martelo militar,
Rosina, dos 7 que ficaram,
Rosina,
um deu pra ladrão de reis,
Rosina,
deu no tango e deu no mango,
Rosina,
dos 7 ficaram 6,
Rosina, tomo do martelo tomador,
Rosina,
tomo do martelo militar,
Rosina,
tomo do martelo tomador,
Rosina,
tomo do martelo militar,
Rosina, desses 6 que ficaram,
Rosina,
um deu pra ladrão de pingo,
Rosina,
deu no tango e deu no mango,
Rosina,
dos 6 só ficaram 5,
Rosina,
deu no mango,
Rosina,
dos 5 ficaram 4,
Rosina, tomo do martelo tomador,
Rosina,
tomo do martelo militar,
Rosina, dos 4 que ficaram,
Rosina,
um deu pra roubar outra vez,
Rosina,
deu no tango e deu no mango,
Rosina,
dos 4 ficaram 3,
Rosina, tomo do martelo tomador,
Rosina,
tomo do martelo militar,
Rosina, desses 3 que ficaram,
Rosina,
um deu pra deu no mando,
Rosina,
dos 3 só ficaram 2,
Rosina, tomo do martelo tomador,
Rosina,
tomo do martelo militar,
Rosina, desses 2 que ficaram,
Rosina,
deu pra roubar girimum,
Rosina,
deu no tango e deu no mando,
Rosina,
dos 2 só ficaram 1,
Rosina,
être heureux comme un pape, j'ai un nœud pape, je suis invité, moi qui aime traîner la savate, les belles cravates et l'oisiveté, et discuter du grand amour, cravate de velours pour toute la vie, même si la vie ça fait beaucoup, cravate au cou, à mon avis, je suis sapé comme un notaire, cravate blazer et nous dansons, et lorsqu'il commence à m'en cuire, cravate de cuir et je me morfonds. soir. J'en ai ras-le-bol à la coupole, cravate au col, de boire du thé quand je préfère aller jouer. Cravate dénouée, ma chance au dé. Le mariage n'est plus à la mode, cravate en sol dans cette saison. Et jamais je ne moisirai, cravate arrêt dans une prison. Alors au lieu de me morfondre, cravate de Londres, je file à l'anglaise. Avec ça j'emporte vos ronds, cravate marron pour être à l'aise. Cravate à poids, cravate de soie. Cravate à poids, cravate de soie. D'abord vous vous laisserez abattre, cravate verdâtre, vous me regretterez. Et puis vous serez écarlate comme ma cravate quand vous pigerez. Et moi j'aurai pris les devants, cravate au vent ainsi que le soin. Dans votre triomphe décapoté, cravate mouchetée de changer de coin. Avant que la colère ne darde, cravate moutarde son aiguillon. Et que l'on songe à m'arrêter de cravater au portillon. Cravate de soie. Cravate à poids. Cravate de soie. Avant que cette histoire se termine, cravate d'hermine par un procès, qu'on me confisque tout ceinture, cravate bien sûr et mes lacets. Adieu et j'emporte l'argenterie, cravate, rubis et vos bijoux, pour m'offrir les cravates que j'aime, c'est-à-dire crème, merci mon chou. Je m'en vais ailleurs me faire pendre, cravate de chambre, adieu beauté, et puis m'en jeter un derrière la lavalière à votre santé. Cravate à poids, cravate de soie. Cravate à poids, cravate de soie.
Eh oui, vous venez d'entendre successivement Mestre Ambrosio, qui nous interprétait Usina, et puis les cravates par, à nouveau, Thomas Fersen. Nous vous rappelons que vous êtes sur les petits tas dans le mou, et qu'aujourd'hui, nous fêtons la sainte Oneille, patronne des bons entendeurs. Nous cherchons à voir ce que l'on entend réellement sous les mots, du moins sous certains mots. Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus... et belle, des radios. Et voici donc venir notre rubrique Gamma, l'aile du nœud papillon. J'ai l'impression qu'il ne se passe plus rien. J'ai l'impression que tout est connu. Y a-t-il un canal qui traverse l'Antarctique ? Il faut garder l'esprit des pionniers. Après les pionniers, il y eut les agriculteurs, puis l'industrie. Les frontières de notre monde sont devenues tellement étroites que notre esprit pionnier ne sait plus vers quel territoire se tourner. L'inconscient. L'inconscient est une contrée toujours nouvelle. L'inconscient est un territoire que l'on ne défrichera jamais. Ici peut s'épanouir l'esprit de découverte. Sinon, nous ne ferons qu'organiser ce qui est déjà organisé, l'activité débile et non profitable à ceux qui font profession de pensée. D'accord. Étudions la disparition de la cravate. Pendant un temps, les hommes aimaient arborer une bande d'étoffe autour du cou. C'était l'usage. Les unes étaient plus longues, les autres nouées en papillon. Les cravates différaient suivant les occasions. Une personne en deuil d'un proche parent portait ordinairement une cravate sombre nouée en long. Un individu en tenue de soirée portait volontiers un nœud papillon. La couleur variait selon la solennité de l'occasion. Le blanc signifiait qu'on était parmi des officiels. C'est intéressant, cette lutte entre la cravate et le nœud papillon. D'un jour à l'autre, l'une gagnait sur l'autre. Et il y avait encore le genre de cravate, la forme, la couleur.
mais on n'en débattait plus. Ça se réglait à la maison, pas sur la place publique. Maintenant, tout est changé. Haro sur la cravate. La cravate parlait du statut social. Les personnes de qualité ont tendance à la porter encore. Elle symbolise leur position. La classe ouvrière est passée par là. Ce bout de tissu était une gêne pour elle. Il l'étranglait plus qu'autre chose. Alors, les autres classes observèrent ce phénomène. L'un puis l'autre essaya de sortir sans cet accoutrement. L'un puis l'autre trouva des imitateurs dans sa propre classe, surtout pendant les chaleurs de l'été. Alors, les fabricants s'inquiétèrent. Ils se mirent à dessiner des chemises à col ouvert ou fermé, appelant ou non le port de la cravate. Quel que soit l'aboutissement de cette tendance à supprimer la cravate, qui fait partie d'un complexe vestimentaire plus étendu, comprenant des couleurs plus vives et un plus grand laisser-aller dans l'habillement en général, elle illustre bien comment, à un moment, une déviation particulière prend une signification plus grande qu'une autre déviation. Détail mineur que la cravate. Frivolité. Nous avons affaire à une variation cumulative, à une véritable tendance culturelle. Si nous prenons un sujet plus sérieux, qui paraît plus sérieux, la guerre, nous voyons qu'aujourd'hui, de nouveau, nous la prenons très au sérieux. L'industrie de l'armement n'a jamais été si prospère. Et ainsi, l'idée de démocratie s'en ressent. Et les valeurs admises. L'idée même de non-ingérence. Quand et dans quelle mesure a-t-on le droit de franchir une frontière pour semer notre grain de sel? Quand l'épreuve de force semble la seule solution et que la population n'en doute plus? Il s'ensuit une démoralisation générale dans l'expansion générale de l'idée d'armement massif. Nous n'en avons pas fini avec la domination. Nous sommes encore des missionnaires et les indigènes sont encore et toujours à coloniser. Nous sommes environnés de tribus coupables. On ne montre sa capacité à gouverner que par l'exercice de la force. Les peuples ont besoin que nous les impressionnions. Quoi, vous croyez entendre Hitler ? La réalité, c'est que les victimes de la force résistent difficilement à l'argument que la puissance représente la supériorité. Nous sommes les plus forts. C'est ainsi que l'on gagne. Il faut bien chasser les occupants, repousser la menace. Oui, mais on ne répliquera plus par des arcs et des flèches. Personne n'acceptera plus de se soumettre, à part la population des nations agressives. Dans ma salle à manger, il y a des richesses dépourvues de sens. Souvent, je les parcours du regard sans savoir ce que je cherche exactement. Puis, je sors le couvert et je me demande pourquoi, ou plutôt comment, je pourrais me sentir mieux. Souvent, je pense que je ne sais pas aimer. Souvent, je me dis que je ne sais pas faire. Souvent, je me dis que je ne sais pas vivre. Mais c'est un secret. C'est l'infini qui revient, une pente vers l'infini. J'existe dans une absence, une ombre dans le temps. Ma question est, pourquoi nous fait-on obstinément mâcher la côte du premier homme.
Consolez, monsieur Poujade, l'histoire d'un artisan qui a réussi, le petit commerce.
Du du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corzo, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé des chaises, réparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé, j'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris, depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours aux amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre, avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers, et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant, je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie, je vais sans souci, au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger. Je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon en solde, canon en solde.
C'était le petit commerce.
Comme elle l'a dit, c'était le petit commerce interprété et écrit par Boris Vian. Et voilà, bon, tout ça est pour continuer à s'interroger maintenant pour un dernier petit quart d'heure sur ce qu'on entend sous les mots, par exemple ingérence ou non-ingérence. Et voici donc venir notre ultime rubrique, la rubrique... Bah, Yaka. Celle que Descartes appelait « Est-ce que j'ai assez douté pour me permettre de douter que je pense ?» J'aimerais bien savoir, quand je parle avec quelqu'un, au préalable, comme ça, quelles sont ses mensurations mentales. Et souvent, la conclusion est « il n'y en a pas ». Car l'interlocuteur, surtout quand il ne vous connaît pas, est d'abord sceptique. Il y a une seule chose qu'il peut avouer être capable de l'aliéner, c'est la douleur. Et moi je comprends. Dans l'acuité de la sensation, on est renvoyé vers son noyau dur. Voilà. Et dans la détente, on ne dépasse pas le pigment. C'est ainsi que j'en suis arrivé à la conclusion que le pigment est la base de toute morale. Ah oui, c'est profond, un sceptique. Ses arguments tranchent, ignorent la neutralité et les conventions. Mais c'est une posture. Comme toute posture, le scepticisme n'est pas naturel. Il faut évincer les arbitrages et les formules toutes faites. Il faut redresser la réflexion. Alors que la nature de la réflexion est de ployer. Est-il possible de distiller les passions dans le système ? Il faut en revenir aux fondamentaux, de temps en temps. Il y a une grande poussée derrière le doute originel, car il cherche à se convertir en extase. L'étonnement aidant tout, et la frénésie du savoir, refusant de se tromper par principe, se porte non pas sur la traque des liens logiques, mais sur la profondeur de celui qui s'étonne et s'émeut. Ça, je l'ai appris chez Wittgenstein. Ce doute exige l'expérience. Il est tendu vers la volonté de résolution, même dérisoire. Bref, ce doute exige des actes. Un sceptique enfermé se détruit lui-même. Ou alors il a tourné sa manière d'être en profession et il ne mérite plus d'être appelé sceptique. Si l'appel, l'instrument, est au fond de soi, la carrière est dehors. On n'est soi que par opposition. L'indifférence est impossible. Oui, mais à l'époque moderne, avec la technologie, la carrière a fait main basse sur la pelle. L'outil est devenu moyen, calcul et probabilité. C'est pourquoi je prône le doute perfide. Perfide et ingénu sont pour moi des synonymes. Hein ? N'a-t-on pas toutes les raisons pour se refaire une santé ? J'évoque un doute sans frontières. La carrière peut toujours courir à ses trousses. Interrogeons le cadre et tentons une percée là où le bois est dur. Bientôt, nous touchons les fondations. Il y a trop de domaines que nous avons oublié d'interroger. La succession des infortunes et des coups fourrés nous incite à la résignation. Le sceptique a pris des teintes insupportables à cause de cette manie de la résolution des faits. D'ailleurs, le doute s'évanouit dans la peur. Cette peur n'est pas très différente de celle du déluge. La peur met un terme au parcours du sceptique. À cet endroit, la raison jette l'éponge. Je parle d'une peur réflexe, incoercible, cette peur qui brise les dépendances. Nos gouvernants feraient bien d'éprouver au moins une fois cette peur, car elle est d'une haute stature. Les vieilles références tombent en feuilles mortes. Les éternelles pétitions de principe passent pour une déviance pathologique issue d'un ulcère cervical. Ceci dit, le doute systématique est la caricature du doute, car il se flatte d'être inamovible, jamais lui-même sujet au doute. Il menace le doute vrai, l'instrumentalisant en le décapant de son caractère subversif. Je connais la logistique des spécialistes du dénigrement, spécialistes du bon mot aussi bien souvent. Vivre est un jeu et un jeu ne vaut rien. Vil réalisme qui exploite des tranches de vérité pour pourrir la vie et s'installer en toute impunité dans le rire gras. Ces gens font de l'ulcère leur fond de commerce. Ils inventent la cruauté cérébrale pour biffer la cruauté organique, celle du révolté. Survivre à son mal est bien vain. Il est préférable de le travailler sous toutes ses coutures. Le mal tient la bride. Je chemine au pas sous son joug. Réalité sidérante, jamais lassante. Ce mal me porte au devant de moi. Je ne le résoudrai pas. Relief, beauté, horreur. Le plus dur est d'être dur et de ne pas prêter gage à la pitié. Les consolateurs du peuple ne l'ont jamais émancipé. Le doute en toutes circonstances doit rester une valeur, non un bien meuble. Être faible n'implique pas de se confondre avec les faibles. Dans le doute, les égaux fraternisent. Les égaux AUX. Ensemble, nous ne serons jamais les faibles. Nous croisons le fer selon des techniques bien à nous. Nous ne sommes pas unis dans nos gestes, ni harmonisés. Chacun mène sa révolte en fonction de l'histoire particulière de cette révolte. Chacun travaille avec le sens spécifique de sa démarche, sans en exclure les absurdités. Les absurdités se partagent dans les œuvres qu'elles proposent. Tel était précisément mon propos.
você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Desconfio que foi o Bush. 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 Onde haverá recurso para dar um bom repuxo no companheiro Bush? Quem arranja um alicate que acerte aquela fase ou corrija aquele fuso? Talvez um parafuso que tá faltando nele melhore aquele abuso. Um chip que desligue aquele terremoto, aquela coca-luz. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Onde haverá recurso para dar um bom repuxo no companheiro Bush? Arranja um alicate que acerta aquela fase ou corrija aquele fuso. Talvez um parafuso que tá faltando nele melhore aquele abuso. Um chip que desligue aquele terremoto, aquela coca-luz. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Dizem Bush, eu desconfio que foi. Foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush.
Toms et Compagnero Bush, une chanson qui dit à peu de choses près, c'est marrant, j'ai eu des doutes là par rapport à cette guerre en Irak, et c'est bizarre, j'y vois toujours derrière, Compagnero Bush, Bush, Bush. Alors bien sûr, ça n'est plus d'actualité, enfin. Ceci, c'était pour conclure notre Sainte Oneille, les émissions Le Petit A dans le Mou. Eh bien, oui, c'est pour vous inciter jusqu'à ce soir minuit, chères auditrices et chers auditeurs, à essayer d'aller voir derrière les mots, tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui jusqu'à minuit, interroger un peu le sens de ces mots qu'on vous prononce, qu'on vous assène, etc. Et vous allez voir que, eh bien, évidemment, on ne met pas tous la même chose derrière les mots, par exemple le mot guerre. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser avec la bande passante, dite bande continue de Radio Canu, concoctée par un certain nombre d'animateurs de cette radio. Néanmoins, est belle. Ensuite, à 17h, vous retrouverez Intrinsèque, les musicalités gaulo-gauloises cul par-dessus tête. À 18h, c'est l'émission Grain de sable, l'émission d'attaque, où aujourd'hui, les invités nous parleront de la mission actuelle sur Lyon des centres sociaux, s'il en reste des missions et s'il en reste des moyens pour les mener à bien. Et à 19h, comme chaque jour de la semaine hebdomadaire, le journal de Radio Canu. Quant à nous, si tout se passe bien, on se retrouvera la prochaine semaine hebdomadaire où, selon le calendrier du Père Ubu concocté par Alfred Jarry, nous ne serons pas à la Saint-Bruno, comme le voudraient les catholiques et romains, mais la Saint-Bruno.
Bruno. Ce sera la Saint-Bruno, le patron des
Des enrhumés. À la prochaine semaine hebdomadaire.
S'efface quand vient l'idée qu'un jour on puisse devenir la France d'en face. Prie et garde. Prie et garde.
Triage.
On vient d'écouter trois morceaux de Potes de Lyon, Y'a rien de Jab et du Songeur, suivi de Je chante mon exil de Toujours le Songeur et Lipson Diallo, et enfin État des lieux de Jab et Sears.
De Carmina Burana afin d'initier une sélection de morceaux avec des voix féminines.
Et donc on poursuit avec Yvette Guilbert
sur Radio Canu 102.2.
Les caquets de la couchée. Après la chute, toujours les femmes font des phrases du boniment. Nous racontons leurs états d'âme, cela tout en se rhabillant. J'en connais, c'est le couple classique qui vous disent en pleurnichant. Chérie, je me sens mélancolique, oh, tu vas me mépriser maintenant. Mais non, mon petit enfant. Ah. Quand un homme a obtenu d'une femme ce que d'elle il a voulu, n'oubliez donc pas, mesdames, qu'il se rit de vos discours et qui sont les mêmes toujours. Ah, s'il pouvait en cinq secs vous clore, ah, s'il pouvait en cinq secs vous clore le bec. Tandis que l'homme se tracasse pour simuler très gentiment un égard, la pauvre jacasse, jase, jase, insipidement. On dit que ce flux de paroles qu'il faut poliment accueillir n'est autre chez les vierges folles que le moyen de s'étourdir. Peut-être, en tout cas je ne la ferai pas revenir. Quand un homme a obtenu d'une femme, ce que d'elle il a voulu, n'oubliez donc pas, mesdames, qu'il se rit de vos discours, qui sont les mêmes, toujours.